RCF.
Bonjour, fidèle auditeur, auditrice du Berry se raconte, avec Agora Défense, la vie militaire dans le Cher et le Berry. Alors aujourd'hui, nous continuons à dérouler le ruban de l'histoire avec notre témoin, le colonel Jean Hénon. Rappelez-vous, nous l'avons quitté au moment où il arrivait tout jeune homme au camp de Mourmelon. Les opérations en Algérie ont débuté. La guerre dite d'Algérie, qu'on ne cite pas encore à l'époque, a débuté un 1er octobre 1954. Bonjour mon colonel, vous êtes lieutenant, vous arrivez dans ce fameux camp de Mourmelon. Que découvrez-vous dans ce camp ? Nous sommes en juillet 46.
56.
56, en 1956, bien sûr. Mmh. Alors, pouvez-vous m'expliquer un peu ce que vous avez appelé, entre guillemets, lors de votre dernière émission, la pétaudière ? Et vous m'avez même dit, en confidence, véritablement, l'impression d'une mobilisation comme celle de la guerre de 1870. Mon collègue, je vous écoute.
Nous avons débarqué le 19 juillet 1956.
Oui.
En arrivant à Alger,
oui.
On nous a dit « Allez, embarquez les camions. » Je me suis inquiété des camions, des véhicules. « On va vous les faire suivre. »
Oui.
Finalement, on a atterri sur le stade de l'Arba. Et la première nuit, j'ai couché sur la terre battue, en ne pouvant avaler qu'un petit beurre. Parce que ça me semblait comme du carton. Je ne pouvais rien avaler. On avait 5 fusils qu'on nous avait prêtés, avec 5 cartouches chacun, pour garder un bataillon.
Un bataillon, c'est combien d'hommes, mon colonel ?
500,
oui.
Et finalement, j'ai été obligé d'envoyer des cadres, trouver une ferme ou deux pour pouvoir s'installer. On ne nous avait rien préparé. On est arrivé dans une ferme où il y avait un triangle assez pointu. La première nuit, j'ai fait mettre une sentinelle à chaque angle. Comme ce sont des gens qui n'avaient jamais touché un pistolet mitrailleur, on leur a donné un fusil. Et le premier, la sentinelle qui était le gars de garde, j'ai dit « Attention, si tu vois quelque chose, tu ne tires pas. Moi, je vais coucher dans le fossé au pied. » Tu me réveilles d'abord. En pleine nuit, j'ai entendu des coups de fusil.
Oui.
Le gars, il avait vu je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, doucement, ne tire pas, on va aller voir au résultat. Et puis finalement, quand on est arrivé à quelques 50 mètres de là, à nouveau des coups de fusil, il avait perdu la consigne, il nous retirait dessus. Heureusement,
oui.
il n'a pas...
Moi, dans votre récit... Et comme un sentiment un peu de grande improvisation, votre embarquement à Marseille, dans un moutonnier, moutonnier. Vous arrivez à Alger, vous m'avez dit, écoutez, à Alger, rappelez-moi ce que vous m'avez dit sur l'impression que vous avez eue quand vous êtes arrivé à Alger.
L'impression que c'était la guerre, hein, la guerre complète, c'était Verdun.
Cette impression de panique.
Une impression de panique, oui.
Et nous sommes en 1956, oui. Et il y a un épisode qui m'a quand même marqué. Vous me dites, écoutez, on avait une camionnette où se trouvait l'armement.
On avait une camionnette où se trouvait l'armement.
Oui, écoutez.
La camionnette n'avait pas rejoint. Et le lendemain, j'ai été obligé d'envoyer une jeep sur le quai à Alger pour la récupérer. La camionnette était restée 24 heures à Alger, sans garde, sans rien, avec l'armement dedans.
Tout l'armement de la compagnie.
Oui. Une partie, d'ailleurs.
Une partie. Donc, franchement, l'impression que vous avez, c'est une impression de panique. Donc, vous vous installez, vous êtes jeune lieutenant, vous commandez une compagnie. Alors, quelle est votre mission après votre installation ? Quelle est votre mission ?
La mission, c'était déjà de s'installer.
Oui, premièrement.
De s'installer. Et puis après, nous avons fait un petit peu des patrouilles à droite et à gauche. C'était un petit peu de la pacification. Ça s'est fait petit à petit, mais la ferme dans laquelle nous étions, les gens couchaient dans le fond des cuves à vin. Il y avait 6 gars en étoile dans les cuves, c'était la ferme Camps, arrivée.
Et est-ce que vous étiez ravitaillé correctement ?
Oui, on ne peut pas dire qu'on n'était pas ravitaillé.
D'accord. Donc, une mission de pacification, de patrouille. Quel était le rapport que vous aviez avec la population dite indigène ?
Il n'y avait pas de rapport. On les ignorait. On les ignorait et ils nous ignoraient.
Tout à fait.
Pour le moment, au départ.
Au départ, c'est ça. Vous étiez officier, lieutenant, parachutiste, et vous commandiez à qui ? À des parachutistes, à des...
Non. C'était des rappelés.
C'était
les rampants de l'armée de l'air.
Vous commandiez des rampants de l'armée de l'air.
Oui. Des gens qui n'avaient tiré 5 cartouches à la 5-5 pendant leur service, hein, mais qui n'avaient aucune notion du travail de fantassin.
Qu'est-ce que vous aviez comme matériel ? Vous aviez des Jeeps ? Qu'est-ce que vous aviez comme JMC, non ?
Alors, au départ, on avait une Jeep. On a une Jeep, une camionnette Renault.
Ouais.
Qu'on a abandonné, qu'on a troqué au bout d'un certain temps contre des Dodge 4x4.
Oui.
Et puis, comme matériel, eh bien, il y avait le fusil Mas 36, il y avait le 36-51, qui a lance-grenade.
Oui.
FM-24-29.
Vous avez des obusiers, non ?
Ouais,
des mortiers, non ?
Un mortier 60.
Un mortier 60, c'est ça.
Un mortier 60. J'ai fait un essai une fois, mais on n'a pas vu le...
On n'a pas vu le résultat. D'accord. Est-ce que vous avez eu des blessés ou des...
Pendant... Non.
Pas de blessés ?
Non, heureusement. Pas de blessés.
Il n'y a pas eu d'incident particulier concernant des félagas ?
Non.
Non, vous étiez non. Vous avez eu cette chance ? Oui.
On aurait pu parce qu'on était dans le... à Sakamodi, on était dans le coin où il y avait le célèbre Ali Roja. Un déserteur de l'armée française qui avait une bande de 100 ou 200 rebelles, paraît-il, qui avait fait des exactions dans le coin. Là.
Alors, mon colonel, j'ai été aussi très ému par une anecdote que vous m'avez contée et j'aimerais que vous me la contiez sur la radio. C'est une jeune femme enceinte, d'origine, ce sont des indigènes, une jeune femme enceinte et son époux cherchant un hébergement. Et nous sommes en décembre 1956, le mois n'est pas innocent, très précisément le 28. Alors j'aimerais que vous me racontiez cette histoire, mon colonel.
Oui, alors j'avais changé de commandement de compagnie, puisque après avoir commandé la deuxième compagnie, j'ai commandé la septième compagnie au deuxième bataillon. Hein, il y avait eu des mouvements de cadres. Alors nous étions à Maréchal Foch.
Oui.
Maréchal Foch, c'est une petite localité en bordure de la plaine de la Mitidja, juste au pied du Djebel. Maréchal Foch, maintenant, s'appelle Arbatash,
oui.
Ce qui veut dire 14.
Oui.
Parce que, paraît-il, il y a 14 sources sur son territoire. J'avais avec moi deux sections de combat et la section de commandement, et deux autres sections étaient en protection du barrage du Hamis.
Oui.
C'était... À quelques kilomètres de là, c'est une retenue d'eau pour l'irrigation. Le PC, le magasin et l'armurerie étaient dans l'ancienne école qui ne fonctionnait plus.
Oui.
La troupe était sous tente marabout.
Oui,
et bien. Moi-même, je n'avais que la minuscule salle d'attente du dispensaire qui était située sous la mairie. Et on devait également assurer la protection du château d'eau. Parce qu'il y avait eu des menaces pouvait y avoir des menaces d'intoxication par la toxine botulique.
D'accord.
Les assassinats, les incendies, les exactions diverses étaient fréquentes.
Ouais.
Alors, nous faisions des patrouilles de jour comme de nuit, presque quotidiennement. Et assez souvent, on participait à des opérations plus importantes.
Ouais.
Alors, un jour, le soir du 28 décembre 1956, peu avant la nuit, je rentrais d'une tournée au barrage du Hamis.
Oui.
Et le sous-lieutenant qui était resté avec la section me dit qu'un arabe était venu le voir pour qu'on lui trouve du travail et du logement pour la nuit. Le sous-lieutenant s'était renseigné, il avait deux frères dans l'armée française. Bon, ça semblait favorable. Ce couple, dont la femme était enceinte jusqu'aux yeux, disons, avait été hébergé la nuit précédente chez l'épicier Pied Noir.
Oui.
Mais cet épicier, que j'ai revu après, il ne voulait plus les héberger parce qu'il avait peur que ses commis ne le dénoncent.
Oui.
et qu'il ait des problèmes avec la rébellion. Je suis allé voir un fermier pied noir qui était dans le bas du village, à l'autre bout du village, et je lui ai demandé s'il n'avait pas une place dans une grange. Je me suis fait mal recevoir. Il a dit, ils vont mettre le feu à la grange. D'abord, il faudrait les tuer tous, etc. Donc, rien à espérer de ce côté-là.
Ouais.
Il y avait l'écurie, mais c'était pas propre, c'était pas. Il y avait des tas de crottins, c'était pas décent. Et en revenant, j'avais dans l'idée une petite image d'un couple semblable qui attendait un enfant et qui ne trouvait pas de gîte pour la nuit. C'était il y a presque 2000 ans. Alors, je me disposais, on m'indique une maison qui était libre depuis une huitaine de jours, et je me disposais à y aller, quand il y a un jeune arabe qui observait la scène, il s'approche et puis il dit « T'en fais pas, mon lieutenant. Moi, je vais les coucher. Je vais leur donner mon lit. » Et je coucherai dans le compartiment à côté, parce qu'il était dans une baraque sur roue de chantier. Je leur donne mon lit, et puis il leur a même donné quelques mandarines. La solution était trouvée. Je lui ai serré la main. Je lui ai dit merci.
Ouais.
Je leur ai fait porter le repas du soir et le petit déjeuner du lendemain matin.
Ouais.
Et puis, ben, ma foi, ils sont...
Ils sont repartis.
Ils sont repartis. Le lendemain matin, ils ont repris le car parce que la femme devait aller accoucher chez ses parents à Douar, dans le sud.
Tout à fait.
C'est un souvenir que je garde en mémoire depuis 60 ans. Et, ben, ma foi, chacun tirera les conclusions qu'il veut. Mais j'avais vu également, après, j'avais vu dans la presse, qu'il y a ce même jeudi 28 décembre, Amédée Froger, président de l'Interfédération des maires d'Algérie, avait été assassiné et ça avait été suivi lors de ses obsèques de ratonnades sanglantes.
Oui.
Alors, ce sont deux événements, disons, contradictoires,
oui.
Hein, qui se sont passés le même jour.
Des événements qui sont aussi des témoignages qui sont pleins d'espérance dans cette période quand même très trouble et terrible. Merci mon colonel. Vous rentrez en métropole en janvier 1957, où vous reprenez votre activité professionnelle dans la métallurgie. Là débute une autre histoire. Vous poursuivez aussi votre activité d'officier de réserve pour votre pays. Vous avez été aussi chef de corps du 95e régiment d'infanterie, régiment cher aux Berruyers et Berruyères. Merci, mon colonel, d'avoir consacré du temps à cette émission, en vous rappelant que notre antenne sera muette du 13 mars au 9 avril pour encore une meilleure qualité d'écoute. Auditeurs, auditrices, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle émission sur l'histoire militaire du Cher et du Berry.